France Inter. Le 7-9.
Il est 7h51, Karine Bécard, votre invitée ce matin, est écrivain.
Bonjour Aurélien Bélanger.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur France Inter. Alors dans votre dernier livre, Le Grand Paris, j'ai relevé cette phrase qui sera une excellente entrée en matière. Vous écrivez, les villes n'existent pas, elles sont faites pour être traversées, pas pour être regardées. Quelle drôle d'idée, Aurélien Bélanger. Les villes ne seraient donc pas faites pour être belles, pour qu'on ait envie de s'y sentir bien, pour qu'on ait envie d'y habiter ?
Ben, c'est les objets les plus gros que l'homme a jamais construits, bien plus gros que toute autre chose. Et effectivement, quand on les traverse, quand on est dans l'élément infrastructurel, sur les autoroutes, etc., on a l'impression qu'on est dans les sortes de filets qui les tiennent comme ça, mais que tous ces filets nous échappent. Il y a des gens qui gèrent les autoroutes, des gens qui gèrent d'autres choses. Il n'y a pas d'urbanisme, en fait. Il n'y a pas eu de plan d'urbanisme à la hauteur d'une mégalopole, jamais. Tout ça, c'est fait par bricolage, etc. Donc, semble dériver lentement. Et à la limite, la métaphore la plus parlante, ce serait celle d'une arche interstellaire. Les villes, c'est des sortes d'arches interstellaires qui nous emmènent quelque part, on sait pas où, vers un destin. Ou en tout cas on sortirait du monde naturel pour aller vers un monde intégralement humain, ce que sont les villes, et en même temps qui nous échappe intégralement, comme mais l'était la nature autrefois.
Vous regardez pas les maires d'aujourd'hui qui sont des maires bâtisseurs, qui sont là pour faire des villes qui soient belles en fait, non ?
Ben, c'est le double aspect, il y a cet aspect et, évidemment, mais la partie la plus belle des villes, c'est leur espèce d'autonomie bizarre. C'est quand on survole sur une autoroute un paysage un petit peu déchiqueté du Val-de-Marne, par exemple, je sais pas, vers les gares de triage de Villeneuve, par exemple. C'est très laid, très bizarre, extrêmement confus, mais on sent qu'il y a eu quelque chose. On sait pas quoi. Mais on sait que la totalité de ce qu'on voit avec nos yeux est passé un moment entre les mains d'une machine ou entre les mains d'un homme. C'est pas un écosystème, ou alors c'est un écosystème humain. Donc oui, il y a cette espèce d'incroyable résilience de la ville. À la limite, il faudrait presque affirmer que la ville est le meilleur urbaniste d'elle-même. Les villes ne commettent pas d'erreurs urbanistiques, elles font que se réparer.
Alors, on nous explique en ce moment que Paris doit réussir son grand Paris, comme Londres a réussi son grand Londres. Qu'est-ce que c'est en fait quand même que le grand Paris ? Qu'est-ce qu'on appelle des villes-monde ? On perçoit le concept bien sûr, mais pourquoi faut-il forcément, selon vous, en passer par là ?
Ben le grand Paris, il naît d'un double constat, c'est le décollage incroyable des villes asiatiques où le concept de modernité urbaine échappe à l'Europe pour la première fois au début du 21e siècle avec le Pudong à Shanghai, ce genre de choses, des tours qui jaillissent partout. Et de l'autre côté, la ville la plus attractive d'Europe, c'est plus Paris depuis longtemps, c'est Londres, et le tunnel sous la Manche siphonne des cadres français qui devraient être à la Défense et qui partent à Londres, etc.
Donc on décroche.
On décroche. Il y a un sentiment de panique, en tout cas, qui est manifesté, et l'idée...
l'idée que le Parisien ne ressent pas, si.
En fait, le sentiment du déclin de Paris est l'une des petites ramifications du sentiment décliniste du début des années 2000. Et donc, le Grand Paris, c'est l'idée de faire... On va faire un truc, on va sauver ça, on va réparer Paris, on va restaurer l'attractivité de Paris. Et de fait, Paris a pas trop décliné en termes d'attractivité. Ça reste une des trois villes monde immédiatement après New York et Londres. C'est la ville la plus attractive et la plus puissante pour plein de raisons. Ouais.
Alors ça reste compliqué quand même d'essayer de le bâtir, ce grand Paris. Emmanuel Macron doit normalement organiser là en janvier une conférence consacrée à ce thème-là, au grand Paris. Je dis normalement parce que ça fait quand même déjà trois fois qu'elle est repoussée, cette conférence, depuis qu'il a été élu en mai dernier. Ce que je veux dire, c'est qu'on sent bien que le processus, il est compliqué, il est long. Je dirais même qu'il est fait à marche forcée. En fait, on n'a pas vraiment envie d'y aller, si ?
On a un peu triché parce qu'on a, ne pouvant pas vraiment faire de réforme institutionnelle parce que c'est trop dur, on a fait des infrastructures, on a fait le métro automatique. Faut bien voir que le Grand Paris, la première fois que le truc arrive sous la table à l'époque gaulliste, l'idée de génie qui est faite, c'est pour améliorer la gouvernance de cette zone, il faut qu'on casse la Seine et l'autre département en 7 départements. On fait une sorte de réforme à l'envers. Aujourd'hui, on essaie de faire l'inverse. C'est hyper compliqué et la grande leçon de l'époque de Delouvrier, des villes nouvelles, etc., c'est pas tant qu'il faut faire des villes nouvelles, c'est qu'il faut maîtriser un peu l'outil institutionnel si on veut arriver à faire quelque chose. Mais on fabrique des
l'outil
institutions...
L'outil institutionnel, c'est la gouvernance, c'est comment la gouvernance, gérer tout ça.
Donc,
quoi.
Pour l'instant, on l'a mis un peu entre parenthèses parce que le métro, c'est tellement sexy et rutilant que tout le monde veut un métro automatique et on se dit que ça va guérir Paris et le remettre en mouvement, etc.
Qui va traverser, voilà, petite et grande couronne.
Chose très, en fait, assez française, c'est quand on a un problème, on pense aux grandes politiques industrielles, grands projets d'infrastructure, plutôt que gouvernance. Du coup, la question, elle est restée un petit peu dans un placard et là, en fait, elle ressort, mais c'est hyper compliqué. A priori, personne veut y aller parce que Paris, c'est... Si on fait vraiment un très grand Paris, on est sur 12-15 millions d'habitants, c'est quasiment un quart des habitants français, c'est une baronnie monstrueuse. Faut imaginer que Nicolas Sarkozy, avec la petite baronnie des Hauts-de-Seine, quelques millions d'habitants, il arrive à prendre le pouvoir. Donc qui mettrait à la tête ? On était très contents quand c'était Jean-Paul Huchon, parce que l'Île-de-France, il y avait un côté, ça amollissait un
c'était
petit peu la dangerosité
c'était
de l'Île-de-France.
C'est vous qui le dites.
Mais qui voudrait fabriquer,
ça fait beaucoup rire, Nicolas,
non, mais qui voudrait fabriquer un objet politique d'une aussi grande dangerosité ?
Alors vous parlez de Nicolas Sarkozy, c'est important parce que c'est lui effectivement au départ qui lance ce grand projet. On va revenir sur la question institutionnelle. Je voudrais parler quand même aussi du lien social qui est important, créer du lien entre ces différents départements. Aujourd'hui, ils vivent chacun dans leur coin, j'ai presque envie de dire, et du lien entre les habitants. Est-ce que vous avez le sentiment que les gens se sentent grands parisiens ou réussiront à se sentir un jour grands parisiens? Vous êtes, vous, un grand parisien?
Ben, moi, c'était le défi. Je suis parisien depuis 10 ans et j'ai passé plus de 10 ans en Essonne quand j'étais adolescent. Donc, en fait, le bouquin Le Grand Paris, c'est une façon de réconcilier un peu ces deux points de vue, d'usager du RERD, quoi. J'ai connu la zone 5 et j'ai connu la zone 1. Et ces expériences sont très contradictoires. Et j'avais l'idée que j'aimerais les réunifier. Et les réunifier, c'est imaginer qu'en fait, je suis pas un banlieusard devenu parisien ou l'inverse. Je suis un grand parisien.
Et donc, vous avez le sentiment qu'on peut réconcilier, par exemple, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis? Parce que ça paraît complètement impossible, ça.
C'est ce que je mets beaucoup en scène dans le bouquin, mais la dualité entre les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis qui a monté comme ça jusqu'aux années 90, où c'était même plus des départements, c'était des chiffres comme ça, 9-3, des invectives presque, des insultes, est quand même en train de s'atténuer. On voit par exemple qu'en termes d'attractivité, la plaine Saint-Denis commence à doubler la défense parce qu'elle est mieux connectée à Roissy, parce qu'il y a plein de sèches chaussures d'entreprise, etc. Donc cette espèce de carte très mythologique que j'ai beaucoup utilisée dans mon roman, que j'aime beaucoup, entre le méchant 9-3 et puis le méritant 9-2, a commencé à éclater en fait. Donc il y a plein de mouvements, et de fait Paris commence un petit peu à grignoter Saint-Ouen, commence un peu à grignoter Montreuil. On parle beaucoup de boboisation, etc. Faut pas exagérer. Enfin, faut aussi voir l'aspect positif, c'est que aujourd'hui pour un jeune bourgeois, c'est plus humiliant d'aller vivre à Malakoff comme ça a pu l'être il y a 20 ans.
Aurélien Bélanger, soyez honnête quand même. La cohésion territoriale, elle ne se décrète pas. La cohésion nationale dont Emmanuel Macron nous a encore parlé lors de ses vœux, ça se décrète pas comme ça. Ça se décide pas. Comment on fait? Est-ce qu'il faut des actions? Est-ce qu'il faut des symboles? Est-ce qu'il faut des gestes forts? Et là, c'est le politique.
Paris a longtemps été une sorte de ville magique où il n'y avait pas d'infrastructure. C'est comme si c'était une pièce de bois dans un échiquier truqué où on appuyait sur la pièce, on faisait disparaître le monde moderne. Toutes les infrastructures étaient rejetées en périphérie. Il y avait une sorte de petit Paris doré avec plein de boutiques de luxe et plein de touristes qui venaient voir. Tout ça, c'était faux. On était l'une des seules villes qui était une sorte de scène de théâtre où on avait écarté les coulisses. Le Grand Paris, c'est l'idée de on va co-gérer les coulisses. Effectivement, Paris envoie ses ordures en Seine-et-Marne. Évidemment, on ne va pas les envoyer au parc Montsouris. D'un autre côté, qu'il y ait une co-gestion entre Paris et la Seine-et-Marne de ses propres ordures, c'est ça le Grand Paris. En fait, c'est sur tous les sujets vraiment d'échelle métropolitaine, imaginer de la co-gestion. Donc en fait, le maillage territorial, il existe déjà. C'est que de façon absurde, comme Paris était très unifié urbanistiquement, très petit, très enclavé, très joli, et qu'en plus le président Giscard avait coupé les autoroutes et que Paris n'était connecté à aucune autoroute, on a pu avoir l'impression que Paris dérivait comme ça, comme un objet parfaitement
mis à l'ordre du temps. Mais il y a des mots à dire, non? Les politiques, ils ont des mots à prononcer pour essayer de donner envie, de donner corps, de donner une âme, j'ai même envie de dire.
Ah, c'est une bonne question, parce que en fait, on est quasiment sur des systèmes religieux rivaux, quoi. La politique comme système religieux ultra-laïque, etc., où le pouvoir remplacerait tous les dieux. C'est ce qu'on voit un petit peu quand on rentre en cabinet, comme on rentrerait dans un ordre monastique, en imaginant qu'à la fin, on terminera ministre ou évêque. La ville est aussi un grand mythe religieux, parce que la ville, comme je le disais au tout début, c'est quelque chose qui touche à la fois la plus grande autonomie, et puis le fait, au bout d'un moment, c'est plus vraiment l'autonomie humaine, parce que la ville est plus forte que nous. Donc, toutes ces choses sont des objets très grands qui sont hyper intéressants pour la politique si on veut refaire les réglages.
Alors rapidement, comment on partage le gâteau maintenant? Je rappelle que dans votre livre Le Grand Paris, Aurélien Bélanger, vous racontiez que c'était un projet qui était voulu au départ par la droite pour récupérer la capitale à la gauche. La donne a changé désormais avec Emmanuel Macron.
Oui, en fait, on ne sait pas si Paris peut devenir une sorte de grand capitale du centre, quelque chose comme ça. Ça serait très mystérieux. Ouais. J'en ai aucune idée. Je comprends pourquoi Emmanuel Macron, depuis le mois d'octobre, repousse l'annonce qu'il va faire sur le Grand Paris. Ouais.
Merci beaucoup, Aurélien Bélanger. Je rappelle votre livre, donc Le Grand Paris, paru l'an dernier chez Gallimard. Je vous souhaite une excellente journée.
Merci Karine, et on vous retrouve à 8h40.